Bonjour et bienvenue dans Parole d'expert, le podcast de l'ASL, l'autonome de solidarité laïque, qui aborde les grands sujets liés au métier de l'éducation. Aujourd'hui, nous abordons la thématique école et violence, et plus précisément la question des insultes et incivilités dans le cadre scolaire. Sont-elles en augmentation? Y aurait-il une forme de banalisation à l'œuvre? Quel est le rôle des réseaux sociaux dans la dégradation du climat scolaire? Et plus largement, comment celui-ci se construit-il? Pour en parler, nous recevons Benjamin Moignard, professeur en sciences de l'éducation à l'Université Cergy Paris, laboratoire EMA et président de l'Observatoire universitaire international éducation et prévention, qui s'intéresse en particulier aux violences à l'école. Bonjour Benjamin Moignard.
Bonjour.
On peut avoir le sentiment que le climat se détériore sur le plan des insultes ou des incivilités à l'encontre des personnels d'éducation. Qu'en est-il, selon vous ?
Alors, les mesures montrent qu'il y a plutôt une stabilité sur cette question-là, une stabilité dont il faut un peu se méfier, puisqu'elle masque en fait une polarisation assez forte entre des établissements qui sont en très grande difficulté et puis d'autres qui vont plutôt mieux. Donc, si je le dis autrement, si je compare les chiffres de la fin des années 90 avec ceux d'aujourd'hui, on a plus d'établissements qui vont bien, on a aussi plus d'établissements qui vont moins bien sur cet aspect-là. Donc, ça fait une moyenne, une certaine stabilité globalement, mais une polarisation sur ces questions-là. Donc, il y a plus d'inégalités entre les établissements qu'il n'y en avait hier, mais globalement, on ne peut pas dire qu'il y a une explosion de ce type de violence en particulier.
Est-ce qu'il y a alors d'autres facteurs qui peuvent expliquer ce sentiment qui habite certains personnels de l'éducation ?
On voit par rapport à ce sentiment de dégradation en particulier, plutôt des choses du côté des relations entre adultes, quelque chose qui est souvent assez peu évoqué, assez peu perçu dans le traitement médiatique qu'il est fait de ces questions de violence. Mais c'est beaucoup là que les enseignants nous disent que ça s'est dégradé et assez nettement dégradé. C'est important parce que ce cadre-là de ce qui se passe entre adultes va avoir un impact fort sur la manière avec laquelle va se vivre la relation éducative, vont se vivre des conflits qui peuvent exister, se développer. Si vous êtes dans un établissement où les gens travaillent ensemble, se font confiance, sont encadrés, accompagnés, proactifs dans la manière avec laquelle se définit le projet de leur école ou de leur établissement, leur rapport à ce type d'incident sera nettement différent évidemment que si vous vous sentez très seul et très isolé dans votre classe.
Des équipes en cohésion, c'est ce qui est important pour diminuer le sentiment de mauvais climat scolaire ?
C'est décisif, cette question-là de la stabilité des équipes, à la fois aussi de la manière avec laquelle elles travaillent ou non ensemble, la manière avec laquelle elles font collectif est tout à fait décisif sur ces questions-là. On le sait maintenant, depuis une vingtaine d'années, c'est même ce qui est le plus décisif quand on parle de prévention des violences à l'école. C'est cet enjeu-là de la cohésion, du collectif, de la stabilité aussi, qui est particulièrement importante. C'est pour ça que dans certains établissements, c'est encore plus dur qu'ailleurs, parce que ce sont dans les établissements les plus sensibles qu'on a souvent aussi les équipes les moins stables et les moins organisées collectivement. C'est une vraie difficulté, une vraie spécificité française d'ailleurs. Il faudrait pouvoir y travailler, mais c'est assez peu présent dans les multiples plans de lutte contre les violences qui se perpétuent d'année en année.
Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans, par exemple, les phénomènes de harcèlement ou de ce qu'on peut appeler violence en ligne ?
Alors, dans les phénomènes de harcèlement, les réseaux sociaux vont venir renforcer le harcèlement à l'école, vont venir le diffuser plus largement. En revanche, il faut se méfier d'une idée fausse qui est très présente à la fois dans le traitement médiatique de ces questions et puis chez les personnels aussi de l'éducation. C'est cette idée que finalement, maintenant, le harcèlement serait en ligne et que tout se passerait en ligne. C'est une idée fausse. On sait aujourd'hui qu'il y a une articulation du harcèlement à la fois en présentiel, on peut le dire comme ça pour le dire un peu vite, et puis ça se diffuse et ça s'intensifie. Donc les réseaux sociaux, ils vont participer du harcèlement, ils vont ancrer ce harcèlement de manière forte, mais il ne faut surtout pas réduire le harcèlement à cette question du en ligne ou du hors ligne.
Qu'en est-il du harcèlement ou de la violence en ligne dont peuvent être victimes les enseignants eux-mêmes ? Que pouvez-vous nous en dire ?
Alors sur ça, on est en manque de données. Il faut dire les choses un peu clairement. On sait que c'est un sujet de préoccupation. On l'entend et je l'entends beaucoup sur le terrain. C'est un sujet d'inquiétude aussi des enseignants d'être mis en cause, par exemple, sur des réseaux sociaux ou moqués sur des réseaux sociaux. On a assez peu de données, voire pas du tout de données de recherche encore sur ces aspects-là. Il faut y travailler. C'est un angle mort qu'il faut pouvoir investir pour pouvoir mieux le cerner.
Pour autant, le phénomène existe.
Le phénomène existe. Maintenant, quelle est sa part en termes de volume? C'est difficile à dire. Ce qui est très clair, c'est l'angoisse que ça suscite. Voilà. Il y a des enseignants qui sont inquiets de pouvoir être filmés, par exemple, en cours et que ces films soient diffusés, qui sont inquiets de pouvoir être mis en cause sur les réseaux sociaux avec des mises en cause largement diffusées, elles aussi, attaquées, eux, ou voire même parfois leur famille. Maintenant, les faits en tant que tels sont pas encore, et en tout cas, on dispose pas encore de base de données fiables pour le mesurer précisément. Faut se méfier par rapport à ces questions d'un effet qui est le mélange entre l'inquiétude que ça peut susciter et le fait d'avoir été confronté effectivement à ces faits-là. C'est très différent. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de données fiables pour pouvoir le dire précisément quel est le volume par rapport à ça.
Conséquence d'une actualité nouvelle, quel a pu être l'effet de la crise sanitaire sur les relations entre les élèves, les familles et les enseignants ?
Alors, on a des effets finalement assez paradoxaux, parce que d'une part, ça a pu alimenter un certain nombre de crispations, de tensions dans des relations directes, souvent très inquiètes de la part de familles, mais aussi, on a vu des familles qui se rendaient soudain compte que apprendre et faire apprendre, c'était un métier, qu'être enseignant, c'était pas forcément évident, que leurs enfants, lorsqu'ils les avaient en tant qu'élèves, étaient peut-être pas tout à fait les mêmes que ceux qu'ils imaginaient auparavant. Bref, des décalages dans ces perceptions de ce que c'est que de faire apprendre, y compris son propre enfant. Et puis l'autre aspect aussi, c'est que finalement, avec le confinement, il y a eu des relations très inter-individuelles. Des familles appelées par des enseignants, ce qui ne leur était jamais arrivé, des visios parfois, où le père ou la mère passe et discute quelques instants avec l'enseignant. Bref, des choses nous disent les enseignants sur le terrain qui ont un peu changé, transformé parfois les rapports avec des familles qui étaient lointaines, voire distantes, et qui était soudain un peu plus proche. Ça ne révolutionne pas la relation école-famille, qui reste une relation compliquée en France. On le sait depuis longtemps pour tout un tas de raisons. Mais pour autant, il ne faudrait pas imaginer que ça soit à sens unique, dans un sens ou dans un autre, cette crise-là et cette modification via le distanciel de certaines relations, à la fois crisper quelques-uns, mais faciliter les relations avec beaucoup d'autres. Il y aura des effets, lesquels, je ne sais pas encore.
Finalement, de quoi dépend alors le climat scolaire ?
Alors le climat scolaire, la recherche est assez claire là-dessus maintenant. On a identifié 7 piliers, ce qu'on appelle les piliers du climat scolaire. Il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire cet enjeu du collectif. Il y a les enjeux autour de la justice, et la justice c'est à la fois au travers des évaluations, mais aussi des sanctions, des punitions. Il y a un certain nombre de choses autour de la prévention des violences et du harcèlement. On identifie aussi quelque chose d'important sur la relation aux familles. Ça va avoir un impact sur le climat scolaire évidemment. L'autre aspect, c'est tout ce qui a trait aux pédagogies qui seront mobilisées et comment elles seront mobilisées. Et puis, on a des choses autour de ce qu'on appelle la qualité de vie à l'école. La qualité de vie, c'est plutôt tout ce qui va être architecture scolaire, modalité d'organisation. Et puis, le dernier point, c'est les modalités d'organisation du partenariat au sein de l'école et autour de l'école. Donc, comment est-ce que l'école réussit à travailler avec d'autres ? Donc le climat scolaire, c'est une notion très systémique qui va dire des choses de l'implantation, du contexte dans lequel un établissement va se développer. Il y a des politiques d'établissement et ces politiques d'établissement, elles ont des effets sur les élèves, elles ont des effets sur les enseignants aussi. C'est quelque chose qui, dans la perception publique, est finalement assez récente. On était souvent plutôt sur une approche qui était... le savoir, c'est finalement qu'un enjeu de relations éducatives ou d'aménagement didactique. C'est plus compliqué que ça. On sait que cette échelle-là de l'établissement ou de l'école, elle est très importante et elle est encore plus importante en contexte de mixité. En contexte de mixité scolaire, le climat scolaire va avoir un impact très fort sur la réussite des élèves. Donc le climat, c'est pas qu'une affaire de bien-être. On imite souvent à ça, c'est pas du tout ça. Ça, c'est vraiment un raccourci contre lequel il faut se battre. Le climat scolaire, c'est à la fois considérer des enjeux en termes de relations, mais aussi... la question des savoirs et de la transmission, ou en tout cas de l'entrée dans des processus d'apprentissage. C'est ça le climat scolaire.
Vous évoquez ces 7 piliers du climat scolaire. Avez-vous un exemple de bon fonctionnement qui favoriserait un climat scolaire serein ?
Alors, il n'y a pas un seul bon fonctionnement. Il y a en tout cas des axes sur lesquels on peut travailler. J'évoquais la question de la cohésion éducative, je ne vais pas y revenir. Mais parlons par exemple des questions de sanctions et de punitions. On a en France un traitement très idéologique de ces questions, avec ce sentiment que finalement, il faut taper fort pour que ça avance. Bon, ce que montre la recherche très simplement, c'est que plus les sanctions sont importantes et nombreuses, moins elles sont lisibles et plus elles produisent des formes de violence. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que le registre extrêmement punitif définitif ne fonctionne pas. En revanche, on voit des établissements, y compris implantés dans des zones difficiles, qui ont des politiques éducatives autour de ces questions de sanctions et de punitions, qui cherchent à doser ces sanctions et ces punitions, et qui ont des résultats nettement plus favorables. Par exemple, autour de l'exclusion temporaire, qui doit être un dernier recours, et non pas un recours ordinaire ou une routine quotidienne, comme c'est parfois le cas.
Merci Benjamin Moignard.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté Parole d'expert, le podcast de l'ASL qui aborde les grands sujets liés au métier de l'éducation. Pour écouter les autres épisodes, je vous donne rendez-vous dans la rubrique podcast du site internet de l'Autonome de Solidarité Laïque.